Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et Jésus, aujourd'hui encore, transporte des hommes, des ténèbres, dans sa merveilleuse lumière. Et il le fait cet après-midi pour toi. Toi qui as entendu cet appel, cette parole prophétique qui a été donnée tout à l'heure, tu t'es senti concerné. Viens à la glorieuse lumière du Christ ressuscité et vivre aujourd'hui. Il est venu mourir à la croix pour toi. Il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Et celui qui met sa confiance en lui ne sera jamais déçu. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, alors que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Réponds à l'appel de Dieu. Il t'appelle aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de ta repentance. Alors viens à lui. N'hésite pas. Il t'aime. Et il veut te sauver aujourd'hui. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans la glorieuse présence du Seigneur de gloire, du Seigneur mort et ressuscité.
Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Il fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Et nous réalisons bien que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pourrons absolument rien faire. C'était son œuvre et nous lui donnons toute la gloire. Alléluia. C'est notre plus grande joie lorsque nous voyons Dieu agir comme cela. Quelle joie profonde au fond de nous-mêmes. Quelle joie profonde de savoir que notre Dieu est vivant, fidèle, puissant, compatissant. Nous avons, mes amis, un merveilleux Sauveur. Alléluia. Lorsque nous lisons les Écritures, il était ému de compassion voyant les malades. Et cela, nous l'avons vu là-bas. Combien le Seigneur est grand et merveilleux. Amen. À lui soit toute la gloire. Alors, nous allons prendre quelques instants pour méditer la parole de Dieu ensemble. Je serai plus court que d'habitude. Et ensuite, nous allons prier les uns pour les autres, pour ceux qui le désirent. Nous attendons au Seigneur pour qu'il fasse son œuvre au milieu de nous. Amen.
Amen.
Mais avant cela, je crois que le Seigneur veut encore nous donner quelques paroles d'exhortation. Nous en avons besoin, plus que jamais. Nous devons serrer sa parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre lui. Amen. Et le message que le Seigneur veut nous donner, nous allons le trouver dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, dans les chapitres 1 et 2, nous allons découvrir les trois précieux trésors du chrétien. Trois précieux trésors. Soulignez le mot « précieux » car dans ces trois passages que nous allons lire, nous retrouvons à trois reprises ce mot « précieux ». Et l'apôtre Pierre semble mettre un accent particulier sur ces trois mots qui correspondent à trois réalités précieuses. Les trois précieux trésors du chrétien. Ce sont des choses précieuses que nous devons garder précieusement. Si Dieu nous dit que c'est précieux, c'est que nous devons donc jalousement veiller sur ces trois choses. Quelles sont ces trois choses? Ces trois précieux trésors. Eh bien, nous allons les voir. Le premier précieux trésor, 1 Pierre 1, à partir du verset 6, on peut déjà lire un petit peu avant, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ? Plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, le premier précieux trésor, c'est quoi ? Une foi précieuse. Voilà le premier précieux trésor, c'est notre foi. Aux yeux de Dieu, notre foi est précieuse. Et nous devons garder cette foi précieuse. Et pourquoi elle est précieuse ? Nous allons le voir dans quelques instants. Une deuxième réalité précieuse que nous devons bien garder en tant que chrétiens. Au verset un peu plus loin, au verset 18, toujours dans le même chapitre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux. Le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné dès avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Deuxième trésor précieux que nous devons garder. Nous ne devons pas perdre foi en ces choses, car ces choses sont précieuses aux yeux de Dieu. Elles doivent être précieuses à nos yeux. Amen. Premièrement, une foi précieuse, le sang précieux, et troisième précieux trésor, chapitre 2, à partir du verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Ah, voilà une troisième chose. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. » La troisième chose précieuse, le troisième précieux trésor, c'est quoi ? La pierre précieuse. Et cette pierre précieuse, c'est Jésus. Alors, notez ces trois précieuses réalités, trois précieux trésors. Une foi précieuse, le sang précieux et Jésus, la pierre précieuse qui est Jésus. Et dans ces temps de la fin, nous devons nous attacher à ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Voilà ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Ces trois choses-là. Il y a d'autres choses, bien sûr. Mais voilà trois choses essentielles de notre foi. Dans ce monde, ces choses n'ont pas tellement de valeur, n'est-ce pas vrai ? Mais pour le chrétien, cela doit être une chose très, très importante. Car Pierre parlant à ses chrétiens, quand nous lisons toute l'épître, nous voyons que l'apôtre Pierre prépare ses chrétiens au temps difficile qu'ils allaient traverser. Et comme un bon pasteur, il les prépare à ces moments-là. Et il leur dit que des moments difficiles vont arriver, mais que qu'ils devaient s'attacher à trois choses précieuses, à trois précieux trésors qu'ils devaient garder, pour pouvoir tenir ferme jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. Et je crois que le Seigneur nous adresse à chacun d'entre nous ces précieuses paroles et exhortations. Nous devons gardez précieusement ces trois trésors. Le premier trésor, c'est une foi précieuse. Notre foi est précieuse. Et nous devons garder cela précieusement. Notre foi est plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu. Car si nous perdons notre foi dans ces temps de la fin, à cause des événements, des circonstances, des temps périlleux par lesquels nous allons passer, mes amis, si nous ne savons pas pourquoi nous passons par l'épreuve, alors nous allons perdre les pédales. Et notre foi peut nous aider à tenir ferme dans ces temps de la fin. Amen. Amen. Et alors notre foi est précieuse pour trois raisons. Je vais vous donner trois raisons. Nous tiendrons dans l'épreuve si nous savons trois choses. Et l'apôtre nous le dit là. Nous tiendrons dans l'épreuve si nous savons trois choses importantes, aussi bien pour maintenant que pour les temps à venir. Tu tiendras, je tiendrai dans l'épreuve si je sais ces trois choses. La première des choses est celle-ci, c'est que la gloire de Dieu nous attend. La gloire de Dieu nous attend. Et l'apôtre disait ici, Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ dans les morts, d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Nous pourrons tenir dans l'épreuve dans la mesure où nous savons que ici-bas, nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Nous ne devons pas nous attarder ici-bas sur les choses de la terre. Il y a quelque chose de glorieux qui nous attend dans le ciel. Alléluia. Et si nous savons que la gloire de Dieu nous attend dans le ciel, que nous serons là-haut consolés éternellement, alors nous pourrons supporter toutes nos épreuves sur la terre.
Amen.
Amen. Quand quelqu'un sait qu'il a une espérance devant lui, quand quelqu'un sait qu'après ses souffrances, après ses épreuves, il y a la gloire qui nous attend là-haut, mes amis, alors ça lui permet de tenir ferme.
Amen.
C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, ne vous découragez pas. Il y a des temps sombres, des temps difficiles, mais levez la tête. La gloire de Dieu vous attend. Autant vous avez été rejetés sur cette terre, autant vous serez élevés, glorifiés dans le ciel.
Alléluia.
Ne regardez pas les choses comme le monde les voit. Le monde ne voit que les choses présentes. Mais toi, chrétien, lève les yeux. Regarde au-delà des choses visibles et passagères. La gloire de Dieu nous attend.
Alléluia.
Nous aurons la croix si nous avons porté la couronne. Amen. Nous porterons la couronne si nous avons porté la croix.
Amen.
Il n'y a pas de couronne sans croix. Mais il n'y a pas de croix sans couronne.
Alléluia.
Beaucoup de chrétiens veulent la couronne, mais ils ne veulent pas la croix. N'est-ce pas une contradiction? Beaucoup de chrétiens veulent la couronne. On veut bien porter la couronne, mais on ne veut pas porter la croix. Et l'apôtre dit, ne vous découragez pas, ta foi est précieuse, ta foi doit être bien orientée. Mes amis, dans les temps par lesquels nous vivons, les épreuves sont là, mais nous devons tenir ferme. Comment tenir ferme?
Amen.
Mes amis, tout cela va durer qu'un temps. Il est dit ici, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Aux yeux de Dieu, c'est un peu de temps. On l'a vu un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Aux yeux de Dieu, le temps n'existe pas. C'est pourquoi, quand nous sommes dans l'épreuve, on a l'impression que ça dure très long. L'épreuve est longue, n'est-ce pas, quand on est dans l'épreuve? Oh, on a l'impression que c'est long, c'est long, c'est long. Mais Dieu nous dit, c'est pour un temps. Pour un temps, l'épreuve est la consolation pour l'éternité.
Alléluia.
Alléluia. Mes amis, Chrétien, si tu veux tenir ferme dans les temps périlleux que nous commençons à vivre et que nous vivrons encore, lève les yeux. Amen. La gloire de Dieu nous attend. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que 50 ans, 60 ans, 100 ans de combat sur cette terre à côté d'une éternité de gloire et de consolation. Amen. Amen. Notre vie sur la terre n'est que comme un clin d'œil. C'est tout. C'est un clin d'œil comparé à l'éternité. Et c'est ce que l'apôtre veut dire. Ne regardez pas aux choses passagères. On n'est pas fait pour vivre ici-bas éternellement. Tu es destiné à quelque chose de glorieux.
Alléluia.
Ne te décourage pas. Mes amis, aujourd'hui, nous n'entendons plus beaucoup parler du ciel. Il y a beaucoup de chrétiens, même des pasteurs, qui ne parlent plus du ciel. C'est une grave erreur. Le ciel est une réalité. C'est notre demeure éternelle. Et un jour, nous y serons. Et très bientôt, nous y serons. C'est la plus grande espérance du chrétien. Alléluia. C'est ton espérance. C'est notre glorieuse espérance. Bientôt, très bientôt, nous le verrons. Celui qui nous a tant aimés. Nous pourrons nous courber à ses pieds et lui dire tout notre amour. Alléluia. Nous tiendrons ferme dans l'épreuve si nous regardons à la gloire qui est à venir. Amen. Ou lève la tête. Ne reste pas sur les choses de ce monde. Ces choses sont passagères. La gloire nous attend. Voilà quelque chose qui nous permettra de tenir ferme. Une deuxième chose que nous devons savoir. Premièrement, après l'épreuve, c'est la gloire. Mais que l'épreuve, deuxième chose, l'épreuve est un test. Il faut que notre foi est précieuse et tout ce qui est précieux doit être éprouvé, n'est-ce pas vrai? Et notre foi doit être éprouvée, puisqu'elle est précieuse. Alors nous devons savoir que les épreuves sont des tests pour nous révéler l'authenticité de notre foi. Ah bon, c'est ça? Parce que pour certains, l'épreuve, c'est comme une catastrophe. Oh, oh Seigneur, c'est une catastrophe, l'épreuve. Non. Aux yeux de Dieu, c'est un test. L'épreuve est destinée à déceler l'authenticité de la foi. De ta foi? Mes amis, quand tout va bien, tout le monde est chrétien. N'est-ce pas vrai? Même le païen. Quand tout va bien, oh, je remercie le bon Dieu. Mais quand tout va mal, il le maudit. Quand tout va bien, merci bon Dieu. Il n'y croit même pas, mais il dit merci au bon Dieu. Mais il n'y croit même pas. Quand tout va bien, mes amis, où est notre foi réellement? Ce n'est pas quand tout va bien que vous révélez l'authenticité de votre foi, mes amis. Ce n'est pas là. Le véritable test de l'authenticité de ta foi, de ma foi, se voit dans l'épreuve. Amen. Et tu dois savoir si ta foi est authentique. Dieu le sait. Mais toi, tu ne le sais pas, bien souvent. C'est pourquoi les épreuves, Dieu les fait passer, pour voir comment nous allons réagir. Il nous fait passer par l'épreuve, non pas pour nous détruire, mais pour nous délivrer. Il nous fait passer par l'épreuve pour nous révéler quelle est la nature de notre foi. Si notre foi est réellement authentique, si nous croyons encore en lui, si nous nous attachons encore à lui, c'est là, dans l'épreuve, que se fera la lumière. Et beaucoup de chrétiens dans l'épreuve perdent les pédales. Et même certains abandonnent la foi et s'éloignent du Seigneur. Mais le but de l'épreuve n'est pas de t'éloigner de lui. Le but de l'épreuve est de te rapprocher de lui. Le but de l'épreuve n'est pas de te détruire. Le but de l'épreuve est de purifier notre foi. Comme l'or est purifié par le feu, afin que les scories soient ôtées. Le feu de l'épreuve est nécessaire pour nous purifier de toutes ces scories, de tout ce qui est humain, de tout ce qui est impur dans nos vies, qui ne glorifie pas le Seigneur. Le feu est nécessaire pour nous purifier et pour nous fortifier. Amen. Le but de l'épreuve n'est pas de t'affaiblir. Le but de l'épreuve est de te fortifier dans ta foi. Alléluia.
Amen.
Afin que ta foi soit comme de l'or en barre. Alléluia.
Amen.
Alors, Nous tiendrons ferme dans l'épreuve quand nous saurons que l'épreuve que Dieu nous envoie est un test pour nous révéler la qualité de notre foi. Amen. Ne l'oublie pas. Passe bien l'examen. Réagis convenablement. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Je veux que cette épreuve me fasse grandir, me rapproche de toi, me purifie. Ne dis pas, oh, Seigneur, ça y est, tu m'as abandonné, c'est fini, tu m'aimes plus, tu es contre moi. Non, 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 non. Ça, ce sont des réactions humaines, charnelles, qui te séparent de Dieu. Mais dans l'épreuve, dis, Seigneur, je veux te dire que quelle que soit l'épreuve, je vais utiliser cette épreuve pour me rapprocher de toi, pour me purifier, pour me fortifier et pour te dire que je t'aime et que je te suivrai coûte que coûte. Alléluia. Je veux sortir à la fin de cette épreuve, Seigneur. Je veux être plus pur, plus fort, plus près de toi et te ressembler encore davantage. Alléluia. C'est important. Si tu ne comprends pas cela, c'est ce que Paul voulait dire. Votre foi, pour être plus forte, elle doit être purifiée. Doit être éprouvée. Voilà pourquoi Dieu nous éprouve. Ne considère pas l'épreuve comme une catastrophe, mais comme un examen. C'est un examen. Ah oui, moi j'ai cru que c'était parce que Dieu était contre moi, qu'il m'avait abandonné. Non, 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 non. Au contraire, c'est parce qu'il s'occupe de toi. C'est parce qu'il t'aime qu'il te fait passer un examen. Et le but de l'examen, c'est de te faire grandir et de passer dans la classe supérieure. Amen. C'est pour ça qu'il te fait passer par l'épreuve. C'est pour te faire passer dans la classe supérieure. Amen. C'est un bon professeur, il veut t'aider. Ce n'est jamais pour te détruire. Amen. C'est pour te construire. Ce n'est jamais pour t'abaisser, t'humilier, mais c'est toujours pour t'élever, te fortifier, t'édifier dans ta foi. Alléluia. Amen. Troisième chose que nous devons savoir pour pouvoir tenir ferme dans l'épreuve, c'est que après l'épreuve, viendra la récompense. L'apôtre nous dit ici, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, et ce qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Mes amis, nous tiendrons ferme dans l'épreuve quand nous réaliserons une chose, c'est que, après l'épreuve, Dieu nous récompensera. Ce n'est pas un maître impitoyable. Il nous récompensera. Il nous bénira. Il nous dira, cela va bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses. Viens, je te confierai beaucoup. Alléluia. S'il nous fait passer par l'épreuve, c'est parce qu'il a en vue de nous bénir davantage là-haut, de nous récompenser davantage. Plus nous passons nos examens dans les épreuves, plus nous serons récompensés là-haut. Moins tu as d'examens à passer, moins tu auras de récompenses. Mais nous, on veut beaucoup de récompenses sans passer d'examen. Seigneur, tu me récompenseras, mais les examens, je n'aime pas ça. Ah oui, je sais qu'on n'aime pas beaucoup les examens, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas les examens. Mais le Seigneur nous dit, si tu veux te récompenser là-haut, eh bien, tu dois passer par beaucoup d'examens. Mais je serai avec toi, tu ne seras pas seul. Alléluia, la récompense sera là. Même un verre d'eau que nous avons donné en son nom ne sera pas perdu. Sois fidèle dans les talents que Dieu t'a donnés. Ne dilapide pas ce que Dieu t'a donné. Sois fidèle, il te récompensera. Il est merveilleux le Seigneur. Amen. Tout ce que nous avons fait par amour pour lui et pour les âmes ne sera pas perdu. Ne perds pas les pédales. Sois fidèle jusqu'à la mort et il te donnera la couronne de la vie. Alléluia. Amen. Une foi précieuse. N'est-ce pas merveilleux? Alors garde bien la foi. Elle sera éprouvée, mais elle sera récompensée. Ne l'oublie pas. Deuxième chose précieuse, nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Ah, voilà une chose qui est des plus précieuses aux yeux de Dieu. Le sang précieux de Jésus est le fondement même de notre salut. Amen. C'est pourquoi le diable n'aime pas la mention du sang. Le diable n'aime pas que l'on parle du sang précieux de Jésus. Il y a même certaines versions qui commencent à ne version de la Bible qui commencent à ne plus mentionner le sang de Jésus. Il y a même certains théologiens qui disent la mention du sang c'est une théologie de boucherie, nous n'en voulons pas. Ceux qui parlent comme cela blasphèment devant Dieu. Celui qui rejette le sang de Jésus comme le seul moyen d'être pardonné de ses péchés signe sa propre perdition éternelle. Il signe sa propre perdition. Il n'y a pas d'autre moyen de salut que par le sacrifice sanglant de notre Seigneur Jésus. Ne joignons jamais le rang de ces moqueurs qui se moquent du sang précieux de Jésus. Christ a souffert pour nos péchés, lui le juste pour nous injustes, afin de nous amener à Dieu. Mes amis, il n'y a pas d'autre moyen de nous approcher de Dieu que par le sacrifice sanglant de Jésus. Amen. N'oublions pas, c'est précieux, le sang de Christ, c'est le passeport pour aller au ciel. Ce ne sont pas tes souffrances qui t'emmèneront au ciel, c'est les souffrances de Jésus-Christ. Ce ne sont pas tes sacrifices qui te mèneront au ciel, c'est le sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Amen. Ne l'oublie pas, il y en a un qui veut que tu oublies cela, c'est le diable. Il veut que tu méprises ces choses, que tu ignores ces choses. Mais Pierre voulait que ces chrétiens sachent que le sang de Jésus est précieux au ciel. C'est le sang précieux de Jésus qui a pleinement satisfait la justice divine. Amen. Nous avons été réconciliés par le sang de Jésus. Il a fait la paix par le sang de la croix. C'est quand Jésus a offert sa vie sur la croix en sacrifice pour nos péchés, que Dieu le Père a accepté ce sacrifice comme parfait et suffisant pour le rachat de l'âme de l'homme et pour le pardon de nos péchés.
Amen.
Alléluia. Amen. Dieu est satisfait par le sacrifice sanglant de son Fils pour le pardon des péchés. Si Dieu est satisfait, nous devons en être satisfaits aussi.
Amen.
Amen. Accepte le sang de Jésus comme le seul moyen d'être purifié de tes péchés. Est le seul moyen pour entrer dans la présence de Dieu. Ainsi donc, par le moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire céleste. Personne ne peut s'approcher du Dieu trois fois saint sans être purifié par le sang de Jésus. Amen. Aujourd'hui, il y a une telle rébellion dans le cœur de l'homme que nous pensons que nous pouvons nous présenter devant Dieu comme cela. On parle beaucoup que Dieu est amour, mais on ne parle pas beaucoup que Dieu est saint. Nous appuyons beaucoup sur l'amour de Dieu, et c'est vrai. Mais ton sang me rappelle ton sacrifice sanglant à cause de mes péchés. Vous dites, mais parce que il a fallu vraiment qu'il y ait ce sacrifice pour que Dieu me pardonne. Est-ce que Dieu ne pouvait pas me pardonner comme cela, du haut du ciel, en disant, si tu demandes pardon, je te pardonnerai. Non, mes amis, le péché de l'homme mérite le jugement de Dieu. Nous ne pouvons pas être pardonnés de nos péchés comme cela en demandant, Seigneur, je te pardonne, je te demande pardon. Ce n'est pas comme ça que Dieu pardonne. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché mérite le jugement de Dieu. C'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Le péché est grave aux yeux de Dieu. Nous ne pouvons pas jouer avec le péché. C'est pourquoi nous devons réaliser que si Jésus a versé son sang, c'est parce que nos péchés nous séparaient de Dieu. Et que nous devons venir toujours dans la crainte et le tremblement devant lui, en ne jouant jamais avec le péché, mais en le haïssant. En réalisant que c'est à cause de mes péchés que Christ a dû souffrir. C'est pourquoi, désormais, je haïrai mon péché et je marcherai en nouveauté de vie, devant sa face et pour toujours. Amen. Le sang précieux de Jésus, C'est la chose la plus précieuse que nous avons sur cette terre. Et c'est le seul passeport pour le ciel. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre.
Mais Seigneur, mes parents étaient comme si. Mes parents, mon grand-père, ma grand-mère étaient comme ça. On était tous des gens qui priaient Dieu, inconnus. Ce n'est pas comme cela qu'on entre au ciel. C'est au travers du sang précieux de Jésus, reconnaissant notre totale perdition devant Dieu à cause de nos péchés, où l'on réclame sa grâce pour être lavé et purifié par le sang précieux de l'agneau. Amen.
Amen.
Alléluia. L'agneau qui a été immolé, à cause de ce sang, nous chanterons éternellement son amour. Et nous, lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous voyons la multitude dans les cieux chanter continuellement à l'agneau qui a été immolé et qui nous a rachetés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. À lui soit la gloire, la puissance et le règne au siècle des siècles. Il nous a rachetés par son sang. Voilà ce que nous chantons dans l'Apocalypse, dans le ciel. Nous réaliserons là-haut que c'est seulement le sang de Jésus, son sacrifice parfait, qui nous a donné une entrée parfaite dans le ciel et de nous présenter parfaitement devant lui, comme si nous n'avions jamais péché, à cause du sacrifice parfait de Jésus qui est parfait pour l'éternité.
Amen.
Amen. Le sang précieux de Jésus, c'est la chose la plus précieuse dans le ciel. C'est la seule chose qui nous ouvre le ciel. Puissions-nous garder cela précieusement dans nos cœurs. Et je termine. La pierre précieuse. Vous savez, comme je l'ai dit, Pierre parlait à ses premiers chrétiens. Et certains commençaient à avoir des doutes, puisqu'il est dit dans 1 Pierre 2, verset 6, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Qu'est-ce qu'il voulait dire, Pierre, là? Il voulait dire que certains commençaient à douter, certains chrétiens, à cause de l'épreuve, des tribulations, à cause de tout ce qui se passait, que certains commençaient à chanceler. Certains commençaient à chanceler. Pourquoi? Pourquoi ceci? Ils n'étaient pas préparés. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce feu, ces épreuves, tout ça, ces tribulations? Pourquoi? Pierre ressentait, voyait ces choses, le doute pénétrait. Le doute. Et c'est là, l'apôtre Pierre est là, avec un message pour ses premiers chrétiens, remplis du Saint-Esprit. Ce même message est valable pour nous aujourd'hui. Car certains chancellent, se laissent influencer par le monde, par les philosophies du monde, par les religions de ce monde. Le doute pénètre en eux. Ils essayent de trouver des solutions en dehors de la parole de Dieu. C'est très grave. La parole de Dieu a la solution parfaite à tous nos problèmes. Amen. Et s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, nous devons laisser ça entre les mains du Seigneur. Mais ne donnons pas des raisons, des solutions, là où Dieu ne dit rien du tout et est silencieux. Nous devons faire confiance. Ne doutons jamais de cette pierre précieuse. Et nous ne devons jamais douter de trois choses, c'est ce que Pierre dit maintenant. Et je vais terminer avec cela. Dans ce passage que nous devons de lire maintenant, c'est comme si Pierre disait, Jésus est la pierre angulaire. Vous ne devez pas douter de trois choses. Voici, verset 6, 1 Pierre 2, 6. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire. Ensuite, choisie, précieuse, et celui en qui, celui qui croit en elle ne sera point confus. Il y a donc trois pensées ici. Ne doute, l'apôtre Pierre voudrait dire en somme, ne doutez pas de Jésus qui est la pierre angulaire. Vous savez à quoi sert une pierre angulaire ? Vous le savez comme moi, la pierre angulaire, c'est la première pierre que l'on pose lorsqu'on commence la construction d'un bâtiment, n'est-ce pas vrai? C'est la première pierre. Et tout le poids du bâtiment repose sur cette pierre, n'est-ce pas vrai? C'est ça, la pierre angulaire. C'est la première pierre et tout repose là-dessus. C'est comme si Pierre voulait dire, il est la pierre angulaire. Il est la pierre précieuse, la pierre angulaire. Ne doutez jamais de sa puissance. S'il est la pierre angulaire, il peut porter tout l'édifice. Il te portera. Il portera les chrétiens. Tu ne t'écrouleras pas. Tu ne chancelleras pas. Si tu mets ta confiance sur le rocher des siècles. Alléluia. Il est la pierre précieuse. Et il est la pierre angulaire. Ce qui veut dire, ne doute jamais de sa puissance. Ne doute jamais de sa puissance pour te garder, pour te préserver. Quand tout va mal, ne doute jamais de sa puissance. Il est la pierre angulaire, il te soutiendra. Tes pieds ne chancelleront point. Amen. Alléluia. Il te gardera. Quand 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il te gardera. Il te gardera de l'épreuve. Où il te gardera dans l'épreuve. Amen. Il est la pierre angulaire. Il est tout puissant pour te garder. Celui qui a commencé en toi, cette bonne œuvre l'achèvera pour le jour du Seigneur. Amen. Amen. Alors, il est la pierre précieuse. Ça veut dire qu'il est la pierre angulaire. Je ne dois jamais douter de sa puissance. Ce qu'il a commencé en moi, il l'achèvera. Je suis faible, mais il est fort. Que le faible dise « je suis fort ». Sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse, afin que toute la gloire lui en revienne. Amen.
Alléluia.
Et il est bon de bien réaliser notre faiblesse, mes amis. Certains pensent qu'il faut qu'on réalise toute notre puissance pour faire l'œuvre de Dieu. Non, 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 non. Plus tu réalises ta faiblesse, plus la puissance de Dieu se manifestera dans ta vie. Amen. C'est très important cela. Beaucoup pensent qu'il faut se sentir très fort pour faire l'œuvre de Dieu. Non, non, non. Sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. C'est quand nous réalisons que nous ne sommes rien du tout, incapables de faire quoi que ce soit. C'est à ce moment-là que nous comptons désespérément sur lui. Et c'est alors que nous voyons la grâce et la puissance de Dieu agir dans nos vies et par nos vies. Amen. Il est la pierre angulaire. Il soutient le bâtiment. Cette maison ne s'écroulera jamais. Celui qui bâtit sur Jésus ne s'écroulera jamais. Reste fondé sur le Seigneur et sa parole et tu tiendras debout. Sinon ta maison s'écroulera. Si tu bâtis sur le sable des philosophies humaines, des religions humaines, ta maison s'écroulera lorsque la tempête viendra. Et grande sera la ruine de cette maison. Quelle tragédie! L'apôtre Pierre dit encore, premièrement, ne doutez pas de sa puissance et la pierre angulaire. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous avons avec nous celui qui est le plus puissant? Alléluia. Nous sommes du côté du plus fort, du vainqueur. Et ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Quelle consolation! Il est la pierre angulaire. Inébranlable, indestructible. Et qu'est-ce qu'il est aussi? Il est la pierre choisie. On l'a lu ici, une pierre angulaire choisie. Angulaire, ne doutez pas de sa puissance, choisie par Dieu, ne doutez pas de sa sagesse. Dieu l'a choisie. Les hommes l'ont rejeté, n'est-ce pas? Jésus était rejeté par les hommes. Jésus, la sagesse des hommes n'acceptait pas la personne de Jésus, n'est-ce pas vrai? N'acceptait pas l'enseignement de Jésus. Jésus n'était rien pour les yeux, aux yeux des sages de ce monde. Mais si Jésus était rejeté par la sagesse de ce monde, il était choisi devant son Père. La sagesse de Dieu avait choisi Jésus. Et c'est comme si Pierre voulait dire à ses premiers chrétiens, tourmentés, accablés, alors ne doutez pas de sa puissance, il est la pierre angulaire. Mais il est la pierre choisie devant Dieu, ne doutez jamais de sa sagesse. Apparemment, on pouvait croire que tous ceux qui croyaient en Jésus à ce moment-là étaient des gens qui étaient comme trompés, abandonnés. Personne ne s'occupait d'eux. Où est votre bon berger? Vous dites qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il fait pour vous? Le doute vient. Mais le chrétien doit réaliser une chose. Il ne doit jamais douter de la sagesse de Dieu. Les choses n'iront pas comme tu le veux, mais Dieu a un plan parfait. Fais-lui confiance. Nous voyons les choses dans le temps présent et nous jugeons la sagesse de Dieu d'après ce que nous voyons maintenant, n'est-ce pas vrai? On ne voit pas loin, nous. Nous avons une vision à courte vue. Mais Dieu agit dans notre vie, non pas pour les choses présentes maintenant, mais il a l'éternité en vue. C'est pourquoi il a dit un jour à Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas maintenant, mais plus tard tu le comprendras. Ne doutons pas de sa sagesse. Beaucoup de choses que tu ne comprends pas maintenant, mais que tu comprendras plus tard. Dis, Seigneur, tu es merveilleux. Je ne veux jamais douter de ta sagesse. Tu es parfait dans toutes tes voies. Et tu tiendras debout. Amen. Tu tiendras ferme. Sois attaché à la sagesse de Dieu. Et si nous sommes attachés à sa sagesse, nous passerons pour des fous aux yeux du monde, n'est-ce pas vrai? Mais si tu veux paraître sage aux yeux des hommes, tu seras un fou aux yeux de Dieu. Passe pour un fou aux yeux des hommes, mais sois sage devant Dieu.
Amen.
Ne recherche pas la sagesse des hommes. Cherche la sagesse de Dieu.
Amen.
Qui est une folie aux yeux des hommes, mais c'est la sagesse de Dieu. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Il ne se trompe pas. Ne doute jamais de sa sagesse. Son plan est parfait pour l'éternité. Fais-lui confiance. Un jour, tu comprendras. Fais-lui confiance. Avance par la foi. Fais confiance. Dieu ne se trompe jamais. Dis-le dans ton cœur, souvent, encore et encore. Seigneur, tu ne te trompes jamais.
Amen.
Tu es sage. Tu ne te trompes jamais. Je ne douterai jamais de ta sagesse. Tu resteras debout. Tu seras inébranlable.
Amen.
Et pour terminer, une troisième chose que nous ne devons jamais douter. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Et puis juste un peu avant, il est dit, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Qu'est-ce qu'il voulait dire l'apôtre là? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors vous tiendrez ferme. Autrement dit, ne doutez jamais de son amour. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si tu ne doutes jamais de son amour pour toi, quelles que soient les circonstances, tu resteras ferme et inébranlable. Doute un instant de l'amour de Dieu pour toi. Mon ami, tu es fini. Il n'y a plus rien qui tient. Tu es comme séparé de Dieu. Il n'y a plus rien qui tient. Tu chancelles. Sous le moindre fardeau, tu chancelles. Mais Pierre veut dire à ses premiers chrétiens, celui qui croit en lui ne sera jamais confus, comme pour dire, ne doute jamais de son amour. Ne doute jamais. Ne regarde pas les choses présentes. Il t'aime encore. Ne juge jamais l'amour de Dieu à ce que tu vois et à ce que tu peux expérimenter. Le Seigneur ne t'aime pas seulement quand il te bénit, mais il t'aime encore quand sa bénédiction n'est pas sur toi apparente, sa bénédiction apparente, mais son amour est toujours avec toi. Amen. Ne doute jamais, ne doute jamais de cet amour. Le jour du doute, tu chancelles, c'est terminé. Et tu ne seras pas prêt. C'est pourquoi Jésus est la pierre précieuse, rejetée par les hommes. Mais c'est la pierre angulaire. Ne doute jamais de sa puissance. Il te tiendra et te soutiendra. Alléluia.
Amen.
Mets ta main faible dans sa forte main. Beaucoup disent, ah, mais moi, je ne pourrais pas tenir. Tu n'as pas à te tenir toi-même. Mets ta main faible dans sa forte main. C'est lui qui te tiendra. Alléluia. Mets ta main faible dans sa forte main. Et nul ne les ravira de ma main. Mets ta main faible dans sa forte main. Il te tiendra. Mais ne te détache jamais de cette main percée, car tu peux le faire, et ce serait ta perdition. Mais tant que tu laisses ta main faible dans sa main puissante, il te tiendra, te soutiendra, et te fera paraître devant lui, dans la gloire, pour l'éternité. Ne doute jamais de sa puissance, de sa sagesse, et de son amour. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimer. La victoire du chrétien est liée à l'amour de Dieu pour nous, à celui qui nous a aimés. Tant que tu crois que Dieu t'aime, quelles que soient les circonstances, tu seras vainqueur. Doute de son amour pour toi à cause de tes épreuves, à cause des circonstances négatives, et tu perds l'esprit de victoire, c'est terminé. Car tu as cru quelque chose qui est un mensonge. C'est un mensonge. Le mensonge nous rend esclaves, mais c'est la vérité qui nous rend libres.
Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Trois précieux trésors du chrétien. Garde ce trésor. Si tu as 50 millions à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu fais attention. Hein? Tu as quelques lingots d'or et tout ça. Tu ne mets pas ça comme ça. Hein? Tu caches bien. Puis chérie, tu caches ça comme il faut. Hein? Tu caches ça comme il faut. Voilà, mais bien là, dans un petit coin, caché, personne ne voit et tout. On cache, c'est bien. C'est un trésor, un trésor. Un trésor. Si vous avez quelque chose qui a beaucoup de valeur à la maison, vous en prenez soin, n'est-ce pas vrai? À combien plus forte raison nous devons prendre soin de notre foi? Ta foi a besoin d'être éprouvée pour savoir si elle était authentique. Ne pleure pas. Tu peux pleurer, mais fais confiance au Seigneur. L'épreuve est pour tester ta foi, afin que tu mettes ta confiance davantage en lui. L'épreuve est nécessaire pour que tu réalises ta faiblesse, afin que tu comptes sur lui. Et en comptant sur lui, tu verras la main puissante du Seigneur dans ta vie. Alléluia! C'est alors que tu verras davantage sa grâce, sa main, sa puissance. Une foi précieuse, le sang précieux, seul qui nous purifie de tout péché, et la pierre précieuse, Jésus. Ne doutons jamais de sa puissance, de sa sagesse et de son amour. C'est ainsi que nous serons prêts pour rencontrer notre Seigneur et que nous resterons fidèles jusqu'à la mort. Et c'est alors que Dieu nous donnera la couronne de la vie.
Amen. Alléluia.
Amen.
Amen.
Courbons-nous dans la prière quelques instants. Seigneur Jésus, merci encore pour ta parole, ces trois précieux trésors que tu as donnés à chaque chrétien afin qu'il veille sur ces choses, qu'il ne dilapide pas ces choses, qu'il ne méprise pas ces choses. Seigneur, nous voulons veiller à cela et nous voulons, Seigneur, avoir une foi éprouvée, qui a passé par l'épreuve et qui a fait ses preuves. Seigneur, nous ne devons pas seulement croire quand tout va bien, mais continuer de croire quand tout se dresse contre nous et que même nous avons l'impression que tu es contre nous. C'est alors que tu éprouves notre foi. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, nous voulons ainsi avoir une foi éprouvée, une foi qui est passée par le sang de Jésus, qui seul purifie nos péchés, et une foi solidement ancrée, fondée sur Jésus-Christ, qui est puissant, qui est sage, et qui nous aime, et qui nous transformera de jour en jour pour que nos vies le glorifient, et que nous soyons prêts pour le jour glorieux de son retour. Levons nos têtes, il revient bientôt. Utilisons nos épreuves pour grandir. Utilisons nos épreuves pour nous purifier, nous fortifier et nous rapprocher de lui. Nous aurons ainsi atteint le but de Dieu et la récompense sera grande là-haut.
Gloire à toi, Seigneur.
À lui seul soit la gloire. Si nous avons la croix ici-bas,
Amen.
Nous aurons la couronne là-haut.
Amen.
Prends courage, mon enfant.
Amen.
Prends courage.
Amen.
Lève les yeux.
Amen.
Ta délivrance approche.
Amen.
Tu vas bientôt entrer dans la gloire. Et ta récompense sera grande. Et ta consolation sera éternelle. À Jésus,
Amen.
Notre Sauveur.
Amen.
à celui qui a commencé en nous cette œuvre, soit la gloire, et qui l'achèvera, soit la gloire dès maintenant et à jamais. Amen. Restons quelques instants dans le recueillement.